Guy Laforêt enseigne au département de sciences politiques de l'Université Laval, spécialiste du fédéralisme canadien. Il était de passage ce matin sur la colline du Parlement, au restaurant parlementaire, pour parler de son dernier livre, Un Québec exilé dans la Fédération, qui vient de paraître aux éditions Québec-Amérique. Monsieur Laforêt est en studio. Bonjour, Monsieur Laforêt.
Bon après-midi.
Vous avez été accueilli comment, d'abord?
Très chaleureusement. Oui. Comme citoyen, c'est paradoxal. Oui. C'est dans ma vie, depuis l'école secondaire, c'est la première fois que je viens...
au Parlement.
Que je visite le Parlement. Donc, ça a été... D'abord, c'est très bien organisé par la Fédération canadienne des sciences humaines dans le cadre d'une série de conférences qui aident à promouvoir la place des sciences sociales et des humanités, de la littérature, dans la société canadienne contemporaine. Il y en a une demi-douzaine au cours de l'année. Et celle-ci, ce matin, c'est la première qui lançait l'affaire. Donc, je me considère chanceux d'avoir pu... aller au corps directement le dire comme ça et leur expliquer comment je voyais à la fois ce que le Québec doit faire pour sortir de son exil intérieur, mais aussi ce que le reste du Canada doit faire pour faciliter un processus semblable.
On va y revenir parce que votre livre a été écrit en août 2013 et vous le soulignez d'ailleurs avant les référendums d'Écosse et celui de Catalogne qui pourrait d'ailleurs avoir lieu dans un mois exactement jour pour jour, le 9 novembre. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est la Cour qui va le déterminer dans une certaine mesure. Est-ce que ça aurait changé l'écriture de votre livre?
Parfois, ce serait facile de dire oui, faut tout recommencer, mais sans que vos auditeurs et vos auditrices ne me considèrent prétentieux. Pour l'essentiel, non. Ce sont deux sociétés. Moi, je dis souvent comme prof, on peut pas être expert de 202 pays dans le monde. On en connaît quelques-uns, outre le sien, davantage. Et moi, la Grande-Bretagne et l'Espagne, ce sont deux pays que je connais vraiment bien. Je connais bien les questions institutionnelles. Ouais. Donc, si je vous avoue mon ignorance cet après-midi sur ces deux pays-là, ça va pas bien parce que je suis supposé les connaître très bien. En Écosse, parmi les choses qui m'ont frappé, et dans un cas, je l'ai dit ce matin, les politiciens britanniques se sont engagés. Il y a eu des promesses. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est semblable à ce qui s'est passé ici en 80 et en 95, sauf que dans le cas de la Grande-Bretagne, dans le cas de l'Écosse, les promesses ont été et sont beaucoup, beaucoup plus précises. Sont calibrées dans le temps, sont précises. On a évoqué des types de changements extrêmement précis. Donc, il y a un exemple de précision dans le langage et je dirais... d'attitude, de respect mutuel entre les partenaires, y compris les dirigeants écossais souverainistes et les politiciens britanniques. Et dans le fond, nous ici, il me semble, on a besoin de ce type de respect-là. On l'a perdu au fil des ans. Moi, depuis 1995, ce que j'ai constaté, c'est que se sont construits graduellement des murs d'indifférence, tantôt d'intolérance et parfois même de mépris. Réciproque entre le Québec et le reste du Canada. Et en Écosse, il n'y a pas des choses semblables. Par contre, en Espagne, oui. De ce point de vue-là, l'Espagne et la Catalogne, c'est plus proche du climat de crispation que nous avons connu ici à la mi des années 90, où là, il y a des défenseurs de la ligne dure, il y a des politiciens doctrinaires des deux côtés. Et donc, la situation espagnole ou hispano-catalane est plus proche de la situation de crispation qui a été la nôtre que ce qu'on peut voir en Écosse et en Grande-Bretagne.
Ouais. Bon, pour revenir à la place du Québec, vous dites que depuis 50 ans, jamais le Québec n'a eu aussi peu de place à Ottawa. On avait quand même l'impression, et vous avez rencontré probablement plusieurs députés, qu'avec la représentation du NPD, ça pouvait quand même changer quelque chose parce qu'il y en avait plusieurs qui avaient été élus au Québec, mais ce n'est pas la perception que vous avez.
Bien, écoutez, plusieurs des députés en question ont été mes anciens étudiants et moi, pour avoir fait des campagnes politiques, mais sans succès, j'ai énormément de respect pour le travail qu'ils et qu'elles font et ils sont un fort contingent dans l'opposition officielle, mais la représentation du Québec dans le parti gouvernemental, par-delà la vaillance des individus, et j'ai rencontré le ministre responsable du Québec, le ministre Lebel aussi ce matin, par-delà la vaillance des individus, autour d'une table, au caucus et au conseil des ministres, le nombre compte aussi. Et donc, le Québec, une province qui représente 23 % de la population canadienne, n'a que 5 députés dans le caucus gouvernemental. Et donc, au-delà de la vaillance des individus, le Québec ne parle pas à la hauteur de son poids, mais ça dépasse ça. C'est dans l'imaginaire. C'est un problème de l'imaginaire aussi. C'est-à-dire que L'indifférence réciproque, ça veut dire que les Québécois, y compris mes étudiants, mes étudiantes, moi j'ai une soixantaine d'années, des gens qui ont 20, 30, 40 ans, qui sont plus jeunes que moi, eh bien, ils s'intéressent à la politique au Québec et ils s'intéressent à la planète, mais fort peu au Canada. Or, pour moi, ça, ça fait partie de l'exil intérieur du Québec dans le Canada. C'est très malsain. C'est malsain constitutionnellement parce que le Québec n'a pas consenti à un gros morceau de l'édifice constitutionnel canadien, mais c'est malsain sociologiquement aussi parce que, je le pense profondément, on est dedans, on va y rester, mais quelque part, le meilleur de nous-mêmes n'y participe pas. Donc, moi, je pense que dans l'horizon des 10-20 prochaines années, il faut trouver des manières pour que les forces, pour que la créativité du Québec, qui sont présentes, on peut le voir, un peu partout, dans la culture, dans l'économie, dans la jeunesse universitaire polyglotte, ambitieuse de Montréal et d'ailleurs, eh bien, elle, de mon point de vue, elle doit participer davantage pour réinitier un nouveau dialogue pour que le Québec sorte de son exil dans le Canada.
Parler de fédéralisme renouvelé, actuellement, Ottawa nage dans les surplus. Les provinces doivent, et Ontario et Québec autant, là, doivent couper dans la santé et dans l'éducation. Est-ce qu'on peut arriver à un fédéralisme équilibré quand on vit ce genre de situation-là?
Alors, on sait présentement à Québec, avec le nouveau gouvernement Couillard, et en passant, les relations sont très bonnes présentement entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario. Leur situation économique, budgétaire est semblable.
Sauf quand on parle de déséquilibre fiscal.
Exact. Mais quelque part, les deux sont à la recherche de moyens pour faire en sorte qu'au Canada, les relations intergouvernementales, j'en ai parlé ce matin, et j'en parle dans mon livre, soient rationalisées, soient fédéralisées. Le Canada est un pays fédéral, une démocratie libérale avancée à mains égards, mais pas dans la conduite des relations fédérales-provinciales. Dans la conduite des relations fédérales-provinciales, c'est l'arbitraire qui règne. Il est possible pour un premier ministre de rencontrer ses homologues une, deux ou trois fois par année, ou pas du tout pendant un ou deux mandats entiers, comme c'est le cas présentement. Donc, que des rencontres formelles aient lieu, ne serait-ce que pour discuter des perspectives communes sur l'avenir de la fédération, c'est ce qui se fait ailleurs, c'est ce qui se fait en Allemagne. En Grande-Bretagne, qui n'est pas un pays fédéral, et malgré les problèmes avec l'Écosse, il y a un réseau de relations, d'institutions pour les relations intergouvernementales qui marche vraiment, y compris avec l'Irlande. North-South Ministerial Council, Concile britanno, Conseil britanno-irlandais. Ces gens-là se voient formellement, discutent de leurs problèmes communs. Et ici, depuis une dizaine d'années, il n'y a rien de semblable. Donc, c'est le règne de l'arbitraire. Et moi, je pense que et les autorités de l'Ontario et du Québec, dans les prochaines années, sur fond d'une campagne électorale à Ottawa, parmi les choses qu'ils devraient demander, et ça n'exige pas refonder la Constitution, une conduite plus institutionnalisée, plus rationalisée des relations intergouvernementales ferait du bien au Canada.
M. Couillard a parlé de Constitution à un moment donné ou à un autre. On lui a, enfin, fait comprendre que c'était peut-être pas le temps d'en parler. Ça aussi, ça serait une façon, évidemment, d'arriver à ce qu'on ait une fédération, comme vous la décrivez, là.
Oui, et il faut bien voir qu'à Québec, sur fond de crise fiscale, le gouvernement du Québec, à la blague, on peut dire c'est un gouvernement de médecins. Les médecins nous gouvernent, y compris dans la haute fonction publique. Et ils ont de grandes compétences. Ce sont des gens disciplinés, structurés. Mais la science politique, le fédéralisme, c'est pas ça leur domaine de compétences premier. Et je pense qu'ils ont été élus en avril. Ils sont encore en train de faire leur classe. Ils ont à trouver, dans l'horizon des prochains mois, leur ligne de cohérence sur ces questions-là. Et ils ont le temps. Ils sont au pouvoir pour 4 ans et demi.
Majoritaire.
On verra bien. Ils ont un partenaire à l'heure actuelle qui est le gouvernement de M. Harper. Et comme tout le monde au Canada, ils sont dans l'attente des prochaines élections fédérales. Mais les prochaines élections fédérales, de ce point de vue-là, c'est une campagne intéressante. C'est aussi ce que j'ai dit ce matin. Parce que les trois principaux partis politiques sur la scène fédérale vont devoir préciser eux aussi quel type de pays ils envisagent pour l'avenir, y compris la place du fédéralisme. Et ce matin, je leur ai dit que quand on consulte leur site Internet respectif, il y a très peu de place pour le fédéralisme. Alors, être sérieux pour leur part, ce serait de dire précisément comment ils envisagent les rapports avec leurs partenaires. Et c'est une des choses, en plus de faire en sorte que la ville d'Ottawa, elle, fasse un cadeau au Canada en devenant bilingue et en donnant une place aux Français parmi ses langues officielles. Ça aussi, c'est le genre de choses qui pourraient contribuer à atténuer l'exil intérieur du Québec dans le Canada.
Alors, un Québec exilé dans la Fédération, essai d'histoire intellectuelle et de pensée politique. Guy Laforêt, merci beaucoup d'être venu cet après-midi.
Merci et bonne fin de journée.
Et puis, on a pour les auditeurs un livre que vous nous avez apporté. Alors, tiens, on va poser une question parce qu'on en a parlé tantôt. Dans un mois exactement, il pourrait y avoir un référendum quelque part. Alors, je vous demande de nommer le pays en question où il pourrait y avoir un référendum. Alors, nous allons prendre le sixième appel. La bonne réponse, évidemment, 613-288-6100. Monsieur Laforêt, merci beaucoup.
Bonne journée.